Chers bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler du développement de la théologie chrétienne classique. Ensemble, avec une nouvelle histoire et une nouvelle forme de communauté chrétienne et de spiritualité, les 4e et 5e siècles ont vu aussi la naissance de l'orthodoxie chrétienne classique en ce qui concerne les doctrines fondamentales de la Sainte Trinité et de la Christologie. Dès les débuts, la théologie chrétienne était préoccupé par la question que Jésus avait posée à ses disciples concernant sa personne. « Qui dites-vous que je suis ?» Matthieu 16, 15. La communauté chrétienne a répondu à travers la confession de Pierre « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Les premiers débats théologiques relatifs à la nature de Dieu et à la personne du Christ étaient souvent provoqués par des groupes hérétiques chrétiens tels que les gnostiques qui enseigner de la séparation des dieux de la création et du dieu de la rédemption, selon les gnostiques. Comment est-ce que l'éternel Dieu aurait-il pu assumer la chair humaine? Ou comment est-ce que le Fils éternel de Dieu aurait-il pu posséder un corps matériel? Pour ces derniers, Jésus ne pouvait être un véritable être humain. Pour eux, lorsque Jésus marchait le long des rives de la Galilée, ses pieds ne laissaient aucune empreinte dans le sable, etc. Contrairement à cet enseignement erroné, l'Église a énoncé une règle de foi, les principes de base de la croyance chrétienne traditionnelle. Les questions de la règle de foi étaient posées à chaque nouveau chrétien au moment du baptême. Ce que nous appelons aujourd'hui les actes des apôtres s'est développé à partir de ce genre de confession baptismale de foi. En voici le modèle. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? À quoi le nouveau chrétien répondait, pisteo, c'est-à-dire je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, conçu par le Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, et a souffert sous Ponce Pilate plutôt, pisteo. Et croyez-vous au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la résurrection du corps et de la vie éternelle? Pisteo, qui c'est-à-dire je crois. Toutefois, la question fondamentale de la relation entre Jésus de Nazareth et les dieux éternels, qu'il appelait Père, demeurait encore sans une solution qui soit conforme aux Saintes Écritures. Dans sa forme la plus fondamentale, la doctrine de la Trinité constitue la réponse de l'Église chrétienne à cette question cruciale. La doctrine de la Trinité réconcilie l'affirmation de l'Ancien Testament qui dit « Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, au 1 Deutéronome 6, 4. » Donc, la doctrine de la Trinité réconcilie Deutéronome 6, 4 avec la confession du Nouveau Testament affirmant que Jésus-Christ est Seigneur, Philippiens 2, 5 à 11. La question de la Trinité n'était pas simplement un problème de sémantique ou un jeu de mots philosophiques. Cette question est allée à la racine même de la piété chrétienne, sachant que Jésus est l'objet de prières et de l'adoration de l'Église. Au début du 4e siècle, la question a provoqué un conflit acharné entre Arius et Athanase, l'évêque d'Alexandrie. Arius a insisté sur l'unicité et la transcendance des dieux. Arius insiste sur le fait que l'essence de Dieu est indivisible et ne peut par conséquent être partagé avec un autre, y compris son fils. Par conséquent, selon Arius, le Logos, le fils, doit être une créature. Le fils aurait un commencement. Arius affirme, il y avait quand il n'était pas, c'est-à-dire il y avait un temps où le fils n'était pas. Et Dorothy Sawyer écrit, si vous voulez la doctrine du Logos selon Arius, Dieu l'a engendré, et avant qu'il n'ait été engendré, il n'était pas. Contrairement à la position d'Arius qui considérait le Christ comme une créature, Athanase proclame ou encore proclama la théologie du Logos homoousios, c'est-à-dire de même essence que le Père. Selon Athanase, une simple créature, même exaltée, ne pouvait expier nos péchés. Seul Dieu lui-même pouvait nous délivrer du péché et de la mort. En 325, l'Église adopte la théologie d'Athanase sur la nature de Christ au Concile de Nicée qui affirme « Nous croyons en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, éternellement engendré par le Père, Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non fait, d'un seul être avec le Père, pour lui, toutes choses, ou encore par lui, toutes choses ont été faites pour nous, hommes, et pour notre salut, il est descendu du ciel. Le Concile de Nicée n'a pas mis fin à controverses sur la Trinité. Celles-ci ont continué ensemble avec les débats sur la divinité et l'humanité du Christ. Le Concile de Constantinople en 381, le Concile d'Éphèse en 431 et le Concile de Chalcédoine en 451 ont tous contribué à la résolution des questions doctrinales soulevées qui forment dorénavant l'orthodoxie œcuménique. L'orthodoxie œcuménique enseigne que Dieu est un en essence, c'est-à-dire dans son être, et trois en personne, Père, Fils et Saint-Esprit. Jésus-Christ est une personne en deux natures, Dieu et homme. Vers la fin de la période patristique, Saint-Augustin écrivit un traité théologique massif appelé De Trinitate, c'est-à-dire sur la Trinité. De Trinitate résume toute la tradition orthodoxe concernant Dieu. Il souligne l'unité et l'égalité du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, ainsi que la dynamique personnelle des relations des personnes dans l'essence divine. Dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres choses, la théologie de saint Augustin a laissé une empreinte indélébile sur la pensée chrétienne de tous les temps.